Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout là, oui. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 26 juin, il est 8h30, au programme de cette matinale, nous sommes en plateau en direct avec Manon, Zach et Thibaut, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pour l'association Sur le qui-vive, organisatrice du festival de la Cerverette, ce seront les 4, 5, 6 juillet prochains, on en parle avec vous dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, retour sur la fête de la forêt, c'était le week-end du 15 juin, et Léo en a fait un reportage, on écoutera ça en deuxième partie d'émission. Il y aura de la musique comme d'hab, un peu de la musique d'ailleurs du festival de la Cerverette, je me suis pas planté dans les groupes, je suis content. Vous êtes bien sur Radio Barthas et on commence par l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Alors, vous en avez sans doute entendu parler, c'est même sûr, 7 indépendantistes kanaks sont désormais emprisonnés en France. Arrêtés en Nouvelle-Calédonie, les voilà incarcérés en France dans différents centres pénitentiaires, dont celui de Mulhouse ou encore de Dijon. Arrêtés mercredi dernier dans le cadre d'une enquête visant, je cite, les commanditaires présumés des révoltes qui ont embrasé l'archipel depuis mi-mai sur fond d'opposition à la révision du corps électoral qui depuis a été mis en suspens dû aux événements kanaks, bien sûr, mais aussi à la dissolution de l'Assemblée. Les voilà donc enfermés à 17 000 km de chez eux. S'il s'agissait d'en faire des martyrs de la cause indépendantiste, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est ce qu'a indiqué M. Stéphane Bonomo, l'un des avocats de la Défense. Évidemment, ça a remis le feu aux poudres en Nouvelle-Calédonie. Ce comportement de la part du pouvoir français porte un nom pur et simple. Colonialiste. Eh oui, à la fin des années 50, début des années 60, le pouvoir français s'y était pris de la même façon avec les indépendantistes algériens. Comment en est-on encore là en 2024? Alors, l'heure n'est pas à cautionner des violences, hein, mais d'en fustiger deux de la part de l'État français, qui décidément multiplie les bourdes depuis des années maintenant. En premier lieu, celle de décider des droits et des devoirs des kanaks, ici, à Paris, sans prendre le temps d'écouter ce qu'ils et elles ont à dire. Ça allume la mèche, bien sûr. Et d'attiser l'incendie en allant contre les droits de l'homme, en incarcérant loin des leurs des personnes, peut-être pas parfaites, mais qui entendent en tout cas faire valoir les droits de leur peuple. Preuve donc de la politique néocolonialiste française. Révoltant. Allez, on parle du festival de la Cerverette, ça va nous faire du bien. On écoute justement un des groupes qui y sera le samedi, ces petits bureaux. Petit bureau, ils seront au festival de Cerverette qui sera les 5, 6 et 7 juillet prochains, non 4, 5, 6 comme je l'ai dit. Excusez-moi tous les trois, de retour en plateau avec Manon, Zach et Thibaut, merci d'être là. C'est organisé par votre asso sur le qui-vive. Alors je me disais, faut vraiment l'être sur le qui-vive en ce moment, non? Qui s'y jette?
Oui, c'est sûr, faut l'être, on en parlait. Bah justement, on a appris pour la dissolution de l'Assemblée, par exemple, nous, on était même à Cerverette en train de faire une petite soirée dîner pour préparer un petit peu le festival avec les habitants et habitantes. Et oui, c'est sûr que c'est un contexte un peu étrange. Faire un festival comme ça, un dimanche d'élection, c'est assez singulier. Mais du coup, oui, c'est l'occasion de nous aussi... prendre position en tant qu'organisateur et organisatrice d'un festival, dire que ça ne pourrait pas exister si jamais un parti comme le RN par exemple passait au pouvoir et que on est un festival qui font venir plein de personnes, plein d'artistes qui vivent de l'intermittence, qui sont aussi liés de près ou de loin souvent au cercle LGBT et que autant d'endroits dans lesquels le RN n'est pas compatible. Et déjà, ouais, c'est important de commencer peut-être par ça et de dire de le dire clairement.
C'est clair. C'était le but premier de l'asso de créer ce festival ou elle a été créée pour plein d'autres choses, disons, artistiques ? Manon ?
J'ai créé l'association en 2016-2017 pour un projet de théâtre, performance à Nantes. C'était pour une création au spectacle vivant. Et ensuite, elle a été reprise avec le Lou Pentier, qui fait partie aussi du collectif. Et à ça s'est ajouté le festival de Serverette. Voilà un peu tous les projets de création, y compris ce festival.
Allons-y pour parler du festival. C'est la troisième édition. Comment s'est passée l'édition de l'année dernière ?
Bah, très bien, hein. Très bien, ça a commencé. La première en soi, c'était un petit festival entre amis. Et la seconde, il y a déjà eu comme un palier de franchi, plus de monde, plus d'artistes, plus d'énergie aussi. Et on continue un peu dans cette direction avec une programmation assez dense. Et on espère accueillir tout autant de monde, voire plus si c'est possible cette année, avec une programmation assez éclectique entre musique, spectacle vivant.
Ouais, c'est ça, l'idée c'est vraiment de mélanger les arts, hein, dans ce festoche.
Tout à fait.
Ouais, je disais ça aussi parce que vous avez organisé il y a quelques semaines une soirée de soutien. Est-ce que ça l'a fait ? Comment ça s'est passé ? Vous êtes dans le vert ?
On est dans le vert, ouais.
Oui. Mm-hmm. Oui.
On aurait aimé l'être plus dans le vert. Ouais. Mais le challenge est relevé. C'était chaque année quand on commence à ouvrir les portes de la maison, c'est une vieille maison, c'est une maison qui n'est pas non plus fonctionnelle et très confortable, donc il faut remettre les choses en place pour l'été et pour accueillir du monde, donc c'est un peu un challenge. Et puis je voulais dire quoi, justement Thibaut en parlait, c'est ce même week-end là, donc du 8-9 où on a su on a appris la dissolution, les résultats des européennes, tout ça. Et oui, c'était chouette, on a fait une énorme truffade et tout le monde a bien mangé.
T'as parlé de vieille maison, justement, est-ce qu'on peut avoir une carte postale radiophonique de Serverette ?
Ah oui.
Qui s'y colle ? Allez, Manon.
La carte postale de Serverette, c'est un village de la Margeride qui est accolé à une roche, donc c'est un village en hauteur. Il y a une départementale qui le traverse, qui en direction de Saint-Chély-d'Apcher, une rue très froide en bas, et encore en contrebas il y a la Truyère. Tout en haut du village il y a une église, et puis voilà, les maisons sont comme ça adossées, plein de petites ruelles qui étrangement montent vers cette église. Il y a une rue qui s'appelle la rue du Paradis et la rue où est la maison, c'est la rue Royale qui a été récemment rebaptisée rue Royale. Et la maison est vraiment à côté de la rivière, donc il y a une petite passerelle qui passe dans le terrain et la Seine est à côté, puis le jardin de l'autre côté.
C'est parfait, j'y étais totalement. On parle toujours d'identité d'un festival, est-ce qu'on peut parler de la vôtre, si tant est qu'il y en ait une, hein ?
Oui, on tente de... Je pense un pari sur l'éclectisme, avant tout, identité qui puisse relier un baltrade et donc des personnes qui le dansent, mais également des DJ sets, une façon de danser encore différente. Il y aura aussi du rock, comme l'a entendu un peu plus tôt. Il y aura aussi un karaoké acoustique pour chanter toutes et tous ensemble. Donc essayer d'utiliser... le médium de l'art en général pour créer des connexions parfois inattendues, parfois surprenantes entre les personnes toutes les personnes en fait qui sont susceptibles de venir à un événement comme celui-ci.
Alors justement, parlons de la prog. Comment vous avez bossé, comment vous avez trouvé les groupes, est-ce que vous les connaissiez ou est-ce que c'est des groupes qui vous ont contacté, comment vous avez bossé, est-ce que vous battez pour vous dire moi je veux
C'est le résultat de beaucoup de réunions, mais qui étaient très intéressantes. On a fait pas mal de propositions qu'on a listées. Après, chacune, on mettait un peu nos avis sur les propositions. Et une fois qu'on avait un peu décidé de qui on programmait, on a contacté les artistes. Et après, on a eu forcément des réponses positives, des réponses négatives. Et puis, on a adapté en fonction de ça. Après, on a voulu aussi faire une prog qui soit un peu cohérente avec des questions d'horaire, de quel jour ça joue, etc. Pas faire quelque chose de trop énervé à 16h le dimanche, quoi. Voilà.
Tu m'étonnes. Vas-y maintenant.
Et oui, juste, effectivement, on est un peu tous dans le milieu artistique et du coup, ça a été assez rapide, quoi. Les copains, des copaines, des copains jouent. Et en un rien de temps, on avait une prog. On en aurait eu même peut-être trois.
Parce que vous partez loin, quand même. Il y a Galen Hartley qu'on écoutera tout à l'heure. Lui, si j'ai bien vu, il est canadien. Lui.
Oui, il prendra pas l'avion après pour venir au festival.
Non, mais c'est chouette. Allons-y vraiment pour la prog. Hein. Ça commence avec lui. Donc, on vient de le citer, on l'écoutera tout à l'heure. Et The Bimbo Seke Show. Alors, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Donc c'est du cabaret drag show live. Allez-y, expliquez-nous en deux, trois mots à quoi on doit s'attendre.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est assez formidable. C'est quelque chose d'assez récent encore, mais c'est un ami qui incorpore un personnage drag qui s'appelle Bimbo Sake et qui reprend des chansons assez désuètes en général, accompagnées de deux musiciens, batterie, clavier, clarinette, et bouffe la scène, et ainsi guitare, ouais, et qui bouffe la scène, qui a un charisme assez impressionnant, et ça va être une belle ouverture de scène, de festival, parce que Galen Hartley jouera plutôt du côté de la rivière.
Ouais, c'est ça, qu'on soit sur deux lieux comme ça, un peu, okay. Et je viens de comprendre le jeu de mots Bimbo Sake. Très bien. Et ça finira par deux DJ sets, et le samedi, ça commencera par Ma Solitude Is Not Killing Me, c'est du cirque.
Ah ouais. Et là, c'est, je dirais, un peu dans la même veine que The Bimbo Sake Show, parce que est complètement déjantée, Noémie. Ça fait 2 ans depuis le début du festival qu'elle vient, et au début, c'était la sirène un petit peu énervée sur le coin de la rivière qui fait un tirage de tarot déjanté. À la fois, c'est une chanteuse lyrique, donc c'est pour ça aussi qu'il y a un parallèle avec Bimbo, c'est que elles ont toutes les deux une voix incroyable. Et là, c'est le spectacle de cette sirène. Donc, on passe encore l'étape au-dessus dans la création de ce personnage.
Et puis l'éclectisme, hein, comme on le disait, en tout cas le mélange des arts, puisque ça se sera suivi par de la danse, borderline of humanization. C'est bien pour l'addiction le matin.
Donc ça sera juste inversé. The borderline of humanization sera avant la sirène.
Très bien.
Un peu plus de. Voilà. Et ça sera de la danse en espace public, plutôt dans le jardin. Plutôt un côté. Improvisation avec l'espace naturel.
Puis du baltra, des petits bureaux qu'on vient d'écouter, un peu plus rock juste derrière. Alors, l'air de rien, un spectacle pour le dehors, c'est comme ça. Je pense que ça parle de soi-même, donc ça ne sera pas sur scène, ce sera pareil à côté, ou ils seront sur scène
Ils sont sur la place de la mairie.
Ah
ouais.
Ok.
Ouais.
Donc là, vous partez clairement dans un autre lieu, en fait. L'idée, c'est quoi? C'est de déambuler un peu comme ça. Donc vous allez les amener comment, là-bas, les gens? En leur disant, c'est par là?
En calèche.
En calèche. J'aime bien l'idée. Hein. Mais je vous souhaite qu'il en faille beaucoup.
Chez Serverette, voilà. Hein. C'est resté figé.
Et justement, puisqu'on parle de mairie, est-ce que vous êtes soutenu par les institutions? Est-ce que la mairie, par exemple, ou d'autres, vous aident dans l'organisation de ce festoche?
Oui, tout à fait, ouais. On a la chance depuis 3 ans d'être soutenu par la mairie assez activement. En effet, tous les ans, ils nous filent des coups de main. C'est chez eux qu'on va récupérer le bar et la scène du festival, en plus de nous aider avec des subventions également. Du coup, vraiment une entente très, très cordiale et assez nécessaire en fait pour que le festival existe et qu'on puisse proposer, mine de rien quand même, une soirée qui finit vers 2-3 heures du matin le samedi et sur 3 jours. C'est assez impliquant. Et du coup, c'est important d'être suivi également par les institutions, ouais, tout à fait.
Pourvu que ça dure, et ça finira par deux... Ah non, il y a un autre live, Isoy.
Izoï,
ouais. J'étais presque. Donc j'ai pas écouté du tout, pareil, si on peut les décrire en deux, trois mots.
Le nom, je trouve qu'il marche bien, la description rapide, la dance floor instrumentale. Donc il y a une batterie, une percussion, une basse, j'ai peur de dire une guitare, je crois que c'est pas une guitare, je crois que c'est une mini-guitare, je sais plus comment.
Ukulélé ?
Non, je crois que c'est un guitare lélé, je crois que ça s'appelle comme ça.
Guitare lélé.
Genre c'est une petite guitare, comme un ukulélé mais avec 6 cordes, bref. Et
auditeurs, auditrices, on attise votre curiosité à aller voir cette petite guitare.
C'est vraiment l'événement de l'année. Hein.
Voilà, et demander à l'artiste qui en joue, ça se fera bien.
Non, voilà, et une clarinette, et c'est juste ça balance du gros son et ça donne envie de vraiment danser sans s'arrêter en fait. Enfin, vraiment, moi je l'ai déjà vu quelques fois en concert et c'est assez plaisant toute la puissance de cette formation là. Enfin, c'est vraiment, on peut ne pas s'arrêter de danser et c'est hyper agréable quoi.
Ce sera le samedi soir et ça finira par un DJ set. Alors on dit chérie, je suppose.
Tout à fait, c'est ça.
Voilà. Et le dimanche, ça commencera par du solo théâtre poésie avec Coup Franc. C'est rigolo ça.
Ah oui, alors là il y a un petit changement de programmation. On n'a pas encore mis à jour le LESO. Coup Franc ne peut pas venir finalement. Il y aura des performances poétiques pour remplacer un peu dans la même tonalité.
Et puis quelqu'un qu'on connaît bien sur cette antenne, hein, Xavier Boulot. Alors là, il vient juste faire de la musique parce qu'on sait que des fois il fait aussi de la bande dessinée, mais là c'est juste son électro acoustique. Xavier, on le salue. Jardino, chant polyphonique a cappella. Ça parle de soi-même.
Hein. Exactement.
Voilà.
Et donc pour finir, pour chanter tous ensemble, un grand karaoké sur écran géant avec plein de micros, ça va être ça?
Exactement. C'est un peu l'idée, ouais.
Et alors vraiment tout ce qu'on veut, quoi.
Alors peut-être pas tout ce qu'on veut, parce que la particularité de ce karaoké, c'est que ça sera accompagné par trois personnes, une au piano, une à la batterie, une à la basse.
C'est du live. Ouais, c'est classe.
C'est du live. Et on aura une liste. Et puis on va aussi mettre à disposition un petit carnet où vous pourrez noter des petites envies musicales qu'on pourra leur envoyer et si elles ont le temps pour le répéter. Mais voilà, peut-être que aussi elles pourront refuser certaines propositions.
Et du coup, oui, le karaoké aura lieu dans le Porsche. En fait, pour accéder au festival, on rentre par un Porsche. Et là, c'est plutôt sombre. Et l'idée, c'est de projeter les paroles sur le fond du mur. Et voilà, et de s'enjailler pour cette journée du 7.
Voilà.
Ouais, je vois, parce que forcément, ouais. Je suppose qu'il y aura une toute petite pause à 20h.
Peut-être, mais bon, on va faire la fête.
Ouais, c'est sûr, surtout on en aura besoin. Les forces de ce genre de manif, c'est toujours les bénévoles. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous en recherchez encore? Ou est-ce que vous avez votre équipe au complet?
Eh ben ouais, tout à fait, on en recherche encore quelques-uns, quelques-unes. On a déjà pas mal de personnes qui nous ont rejoints, mais c'est sûr que plus de personnes il y a, plus ça nous permet de fluidifier l'organisation et que tout le monde se sente au mieux. Du coup, s'il y a encore des personnes intéressées, c'est possible de venir sur le LOASO ou le Facebook ou l'Instagram du Festival de Serverette et de remplir un petit questionnaire assez court pour qu'on puisse organiser tout ça au mieux. Ouais.
Je mettrai tous les liens sur notre site dans un instant. Allons-y pour les infos pratiques, la billetterie, les tarifs et autres qui s'y collent. Thibaut, Manon, comme vous voulez. Hein.
Alors oui, la billetterie, c'est assez simple. Hein. Pour les 3 jours, le tarif de base est à 35€. Il y a également un tarif solidaire à 30€ pour les personnes avec un peu moins d'argent. Et si des personnes ont envie de soutenir le festival, c'est possible de payer 50€. Et à la journée, c'est 12€ le vendredi et le dimanche et 16€ le samedi, qui est une journée avec une programmation un peu plus conséquente.
La billetterie, elle est sur Hello Asso. Allez, une bonne raison, chacun, chacune, pour venir au festival de Serverette.
Je peux commencer.
Allez, Zach.
La petite baignade dans la truyère pendant les concerts, vraiment, c'est super. Voilà, c'est hyper agréable. On peut vraiment, pas plonger, mais on peut s'allonger dans l'eau. Et profiter du concert, du festival, ou se faire notre petite pause de danse, c'est vraiment très très agréable.
Thibaut ?
Moi, ça fait du coup la troisième année que que je viens au festival. Les deux premières, c'était pas en tant qu'organisateur. Mais chaque fois, c'est quelque chose qui a fait démarrer l'été de façon très belle. Enfin, ça met des étoiles plein les yeux, le lieu et les gens qui y passent. Et c'est une façon de, surtout du coup, avec ces élections, de d'avoir son cœur un peu réconforté par tout ça, je crois.
On va vraiment en avoir besoin, hein, ouais. C'est sûr. Et pour toi, Manon ?
Bah, ça a d'autant plus de sens, oui, que ce festival se tienne le deuxième tour des législatives, vu tout ce qu'on défend au niveau du mélange des populations et des territoires. Donc en fait, je pense que quand on vient au festival, faut aimer justement ce truc-là de mélange des gens, de pas avoir peur de l'autre et de curiosité et de pas avoir peur de la rupture dans la programmation et dans la différence de l'autre. Et si on vient, c'est que, enfin, une bonne raison de venir, c'est parce qu'on aime la vie et les gens.
C'est la meilleure des raisons. Vous votez le matin et vous allez à un festival l'après-midi. C'est quand même un beau programme. Oui, j'allais dire aussi qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de... Vous ne prenez pas la carte bleue. Donc, c'est de l'espèce uniquement. Est-ce qu'il y a un distributeur dans le village ?
Non.
Pas du tout.
Du coup, il faut aller à Rieutor. Rieutor de Randon ou à Saint-Alban, Saint-Chély, tout autour. Prenez du liquide avant.
Ouais.
Oui, voilà. Oui, oui.
Évidemment, puisqu'il y aura un bar, restauration et tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus.
Merci à toi.
Manon, Zach et Thibault, le festival de Serverette, ce sera les 5, 6 et 7 juillet prochains. Tu vois, comme quoi, hein. Je mets toutes les infos, tous les liens utiles sur notre site dans un instant. Excellente journée et bon festival à vous. Dans un instant, retour sur la fête de la forêt. On écoute d'abord un artiste dont on a parlé, qui sera le vendredi au festival, Galen Hartley. C'est parti.
Just about done. Some girls just wanna have fun. We're fucked and it doesn't mean a thing. Do what you want, but don't ever, ever touch me again. All I wanna do is get high, like my dad.
Poste fête de la forêt, je me retrouve donc avec Margot Lepetit, animatrice de la charte forestière au PETR Sud Lozère et du coup par la même co-organisatrice de la fête de la forêt. Margot, du coup on est a posteriori, là dis-moi, pour toi, Comment ça s'est passé cette fête de la forêt, cette deuxième édition ?
Eh ben écoute, plutôt très bien. On est vraiment contente de cette organisation. L'an passé, c'était un peu notre première organisation pour Virginie Guiroy, donc qui est animatrice de la charte forestière sur le pays des Cévennes, et moi-même. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu essuyé les plâtres. Et cette année, on avait un petit peu plus d'expérience. On a pu utiliser des outils qu'on avait créés l'an passé. On a réussi à mobiliser plus de bénévoles pour nous aider le jour J, donc on est plutôt très contents. Et au niveau de la fréquentation, on a aussi fait mieux que l'an passé. C'est vrai que l'an passé, on avait une météo qui avait été assez calamiteuse. Cette année, il a fait beau, il a fait chaud, et du coup, c'est vrai qu'on est plutôt contents.
Tu as parlé de Virginie Guiroy, qui est co-organisée avec toi la fête de la forêt, mais vous n'êtes pas que deux, vous êtes trois.
Ouais, c'est ça. En fait, cette année, c'est donc le pays des Cévennes. Donc, c'est le territoire qui est sur le nord du département du Gard qui était organisateur. Nous, PETR sur Lozère, on était co-organisateurs. Et effectivement, cette année, on a eu la chance de travailler avec, en plus, le PETR Cossé-Cévennes, qui est donc le territoire qui est sur les Gouales et le Viganais, où ils ont en fait une charte forestière qui est en cours de montage également. Ils ont donc souhaité rejoindre l'aventure. Donc effectivement, cette année, on était trois territoires. Et l'idée, c'est qu'on puisse tourner chaque année, organiser l'événement en alternant sur les territoires. Donc l'an passé, c'était Sud-Lozère. Cette année, c'était Pays des Cévennes. Et l'an prochain, normalement, ça sera donc sur le PETR Causse et Cévennes, du coup, autour du Viganais, très certainement.
Tu peux m'expliquer, en somme, en quoi consiste une fête de la forêt et pourquoi elle a lieu ?
En fait, il faut savoir que les chartes forestières, elles travaillent avec l'ensemble des partenaires forestiers. Donc là, j'ai parlé en fait des trois territoires qui organisaient. Mais on organise aussi avec, en concertation avec tous les acteurs forestiers qui veulent bien s'impliquer. Donc le programme, la date, tout ça est choisi. Par exemple, on peut citer l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière, le Parc national des Cévennes, bref. Et les chartes forestières, de manière générale, on travaille ensemble avec ces acteurs. Et on identifie les enjeux du territoire. Et sur nos trois territoires, on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle un manque de la culture forestière. La culture forestière, c'est comment les habitants qui habitent le territoire connaissent et perçoivent la forêt. Et en fait, nous, on est sur des territoires qui sont quand même agricoles et historiquement encore plus agricoles. Et en fait, la forêt qu'on a, elle est quand même relativement récente. Donc par exemple, sur le Sud-Lozère, on a 60% de forêt. Mais c'est de la forêt qui est vraiment jeune. Si on prend même 100, 150 ans avant, il n'y avait pas autant de forêt. Donc en fait, la forêt, elle n'est pas ancrée dans les consciences de chacun. Et l'idée, c'est de mieux faire connaître la forêt pour mieux la valoriser et mieux la protéger. Et l'idée de faire une fête de la forêt, c'était de faire ça de manière un peu festive et sympa. Donc on a donc un programme qui est vraiment très large, et pour pouvoir faire venir un public assez différent, on va avoir des démonstrations de grosses machines forestières pour expliquer ce qu'on fait en forêt, mais on va aussi avoir des conférences, on va avoir des choses un peu plus artistiques pour essayer de communiquer positivement autour de la forêt et pour toucher le public le plus large possible.
Comment le public le plus large possible peut donc s'y retrouver avec toute la complexité que représente la gestion forestière, c'est-à-dire que ce soit du milieu privé, du milieu public, qui gère quoi et comment ça se fait que tel organisme gère telle forêt ?
Eh bien justement, c'est la filière forêt-bois, elle est super complexe. Alors c'est pas spécifique au territoire, hein, c'est au niveau national, comme tu l'as dit. Bah, il y a la forêt publique, il y a la forêt privée, il y a les gens qui nous aident, il y a les gens qui exploitent, il y a les gens qui après transforment le bois. Et en fait, il y a une multitude d'acteurs, chacun a son rôle. Et tu vois, typiquement dans la fête de la forêt, on a ce qu'on appelle un village forestier. Et la majeure partie, la plupart des acteurs forestiers du territoire étaient représentés, même du coup des acteurs au niveau régionaux, je pense notamment à Fribourg-Occitanie. Et l'idée, c'était que chacun puisse aller discuter avec ces acteurs-là, leur demander ce qu'ils font. Et puis souvent, il y avait aussi des petites animations sur les stands pour rendre ça aussi un peu plus ludique. Mais effectivement, la filière forêt-bois est assez complexe et quand on veut trouver un interlocuteur, c'est pas toujours facile. Donc c'était aussi un des objectifs, essayer de me faire connaître les acteurs institutionnels mais aussi privés qui bossent autour de la forêt sur nos territoires.
Un événement comme celui-là, ça demande beaucoup de travail. J'imagine que ça fait des mois que vous êtes dessus à l'organiser. Comment ça se finance ? Comment ça s'organise ce genre d'événement ?
Alors du coup, je l'ai un peu évoqué juste avant, on a constitué l'an passé un groupe de travail composé d'élus et d'acteurs locaux, où en fait on les réunit, on travaille un petit peu en amont et on les réunit pour faire valider la programmation, tous les éléments en fait clés de la fête. Après, du coup, il y a Virginie Joris et moi qui travaillons pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois sur le fond, la logistique, tout ça.
Et surtout, on a des soutiens financiers parce qu'en fait, ça coûte cher d'organiser une fête pareille. Donc, on a la chance d'avoir le Parc National qui nous a soutenus pour la deuxième année consécutive. On a le GAL, donc le groupe d'action locale qui porte les financements leader, donc le GAL des Cévennes au Rhône, j'espère que je ne me trompe pas, qui est notre financeur principal, qui grâce à lui, on a permis de mettre en œuvre quasiment tout ce qu'on souhaitait pour la fête. Et puis après, on a aussi Nuit des Forêts, qui est un festival au niveau national, qui nous a aussi appuyé pour la soirée de lancement qu'on a fait à l'Est, la soirée ciné. Et enfin, la caisse locale du Crédit Agricole de La Grand-Combe, qui nous a aussi soutenus en mécénat. Donc tout ça pour dire qu'organiser un événement comme ça, ça prend du temps et ça coûte aussi un petit peu d'argent, mais on a la chance d'avoir des gens qui nous soutiennent et du coup, c'est super.
Merci Margot pour cet entretien.
Merci Léo.
Et chers auditeurs, je vous propose donc, suite à cet entretien, d'écouter les différents acteurs forestiers que j'ai pu rencontrer sur le site de la Fête de la Forêt.
Bonjour, je m'appelle Philippe Kuhl, je suis technicien territorial pour l'Office National des Forêts et je gère la forêt globalement autour de la Grand-Combe, dans la forêt domaniale du Rouvergue. Alors l'ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial, un peu comme EDF, c'est-à-dire que nous sommes fonctionnaires pour une partie d'entre nous, de droit privé pour d'autres, et nous travaillons pour gérer les forêts de l'État, donc les forêts domaniales, communales, ainsi que les forêts d'autres collectivités.
Aujourd'hui, vous êtes présent dans un stand à la Fête de la Forêt. Qu'est-ce que vous présentez au public ?
Alors déjà, on présente notre établissement qui est parfois mal connu et on explique les manières que l'État met en œuvre pour gérer durablement les forêts publiques. Notre but est que dans un siècle, nos descendants aient en gros les mêmes forêts, voire des meilleures forêts que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et nous œuvrons pour ça avec les moyens que nous pouvons avoir, mais nous essayons de le faire au jour le jour.
Là, ici, sur le territoire des Cévennes, vous avez un poignet d'action sur combien de forêts ?
Alors, en fait, on gère énormément de forêts. Il y a la grande forêt domaniale du Rouvergue, qui fait plus de 5000 hectares. Et nombre de communes ont des forêts communales qui vont de quelques hectares à plusieurs centaines d'hectares. Et l'ONF gère donc ces forêts de droit pour ces organismes, État ou communes.
Dans le cadre du DFCI, ça va être quoi les mesures principales qui vont être prises ?
Alors, depuis aujourd'hui et depuis hier, on est dans la période DFCI, donc défense des forêts contre l'incendie. Donc, de gros moyens sont mobilisés et organisés pour essayer de faire face au risque d'incendie. Alors ça, pour l'été, ça va être véritablement le centre de nos préoccupations. Ensuite, à moyen terme, il y a la gestion normale des forêts et à long terme, l'adaptation des forêts au changement climatique qu'elles prennent en plein fouet. Donc, il y a des travaux, des réflexions, des recherches qui sont faites pour adapter au mieux les forêts, de sorte que, justement, nos descendants puissent avoir des forêts probablement très différentes de celles qui sont là aujourd'hui, mais qui puissent leur apporter à la fois de l'oxygène, du bien-être, un cadre de vie, du bois, permettre l'exercice de la chasse, ce genre de choses. Très prochainement, il y a 24 voitures qu'on appelle proprement des d'Angèle, des 4x4, qui sont équipées de 600 litres d'eau chacun, qui tournent en permanence de 11h à 19h sur tout le territoire du Gard, selon les risques. Hein, des fois, elles sont désactivées, mais généralement, l'été, elles sont souvent activées, pour aller immédiatement sur les départs de feu et les fumées qui peuvent nous être signalées ou qu'on peut constater. Donc c'est un travail véritablement de tous les jours.
En collaboration avec le service des pompiers ?
Évidemment. Donc les services de la DFCI sont souvent les premiers à arriver parce qu'ils sont mobiles, ils sont directement sur place et en route. Quoi. Et à l'issue, ils commencent à attaquer le feu si c'est possible et les pompiers prennent le relais.
Et cette année, comment vous voyez l'été ? Est-ce que c'est un été qui risque d'être compliqué niveau incendie ?
Alors, dans le sud de la France, tous les étés sont compliqués du point de vue des incendies. Il y a eu avant-hier, je crois, un incendie de 600 hectares dans le Gard, dans le Var, alors même que la saison est relativement arrosée. Donc cette année, le début de saison est plutôt, je dirais, moins défavorable, puisqu'on a eu des pluies relativement nombreuses, importantes et bien réparties. Mais si à partir de maintenant il ne pleut plus jusqu'en octobre, on irait vers des situations potentiellement catastrophiques. Donc on est toujours mobilisé, toujours inquiet.
Merci beaucoup.
De rien. Au revoir.
Donc, je suis Christelle Fietko, je travaille au Pays des Cévennes. Donc, je suis en charge de la révision du SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale du Pays des Cévennes. Donc, c'est un document de planification à horizon 20 ans qui définit les grandes orientations d'aménagement du territoire. Donc, sur l'ensemble des thématiques, que ce soit l'habitat, l'environnement, les mobilités, l'agriculture, l'eau. Voilà, c'est un document qui est en cours de révision et sur lequel effectivement on concerte la population voilà, pour avoir un petit peu leur vision du territoire à échéance 20 ans.
Et alors nous on est Anne-Laure Terrier et Caroline Gavian, on travaille pour le bureau d'études Citanova qui est un bureau d'urbanisme et qui accompagne donc le Pays des Cévennes dans cette démarche pour élaborer ce document d'urbanisme. Et on est architecte et urbaniste.
Ok, ça consiste en quoi ?
Alors en tant qu'urbaniste, nous on travaille principalement sur des documents d'urbanisme, des documents de planification. Donc ici c'est le schéma de cohérence territoriale, mais on travaille aussi à plus petite échelle sur des plans locaux d'urbanisme. Et donc on donne en gros le droit des sols. On dit où est-ce qu'on va pouvoir construire, ce qu'on va pouvoir construire à horizon de 10 ans pour les PLU et 20 ans pour les SCOT. Donc c'est tout un travail avec les élus de diagnostic, ensuite de dessiner un projet et après de passer plus sur la phase réglementaire, autant sur les SCOT que sur les PLU. On vient voilà, donner des règles d'urbanisme avec ces documents.
Aujourd'hui, vous êtes présente sur la fête de la forêt des Cévennes. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui au public ?
Là, on est dans une démarche de concertation, c'est-à-dire que là, on est dans la phase de diagnostic du territoire, on essaie de comprendre les enjeux du territoire. Et donc là, on est là pour interpeller les habitants et les questionner sur ce qu'ils apprécient sur leur territoire, les évolutions qu'ils aimeraient, leur vision du territoire à l'horizon des 20 ans, pour intégrer tout ça dans le diagnostic et préciser un peu les choses.
Oui, l'idée, c'est qu'on fait le document avec les élus, qui est aussi suivi par des partenaires techniques, des experts du territoire. Mais on vient aussi concerter la population, prendre leur avis, voilà, pour qu'ils participent à la démarche, puisque ce sont eux les habitants du territoire et ça paraît important de les associer tout au long de la démarche. On aura aussi des réunions publiques, un petit peu plus tard, pour leur représenter donc, le diagnostic finalisé et le projet de territoire.
Et votre champ d'action, du coup, il se base sur les Cévennes ? Ou un peu plus loin ?
Alors par rapport au périmètre, donc on est à l'échelle du Pays des Cévennes, donc qui regroupe 95 communes, donc les 72 communes d'Alès Agglomération et les 23 communes de la communauté de communes de Cévennes.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Donc moi je suis Baptiste Algoët, je suis responsable du pôle forêt et chasse pour le parc national des Cévennes. Donc on est à la fête de la forêt, on est cofinanceur, une subvention de 2 500 € qui a été attribuée par la commission forêt et l'établissement. On tient un petit stand toute la journée aujourd'hui pour informer le public sur différentes choses en lien avec la gestion forestière et la biodiversité, le maintien de la biodiversité. Je participerai tout à l'heure à une conférence et une table ronde sur le risque incendie et la gestion forestière. Et on teste aujourd'hui aussi, c'est l'occasion de tester un prototype de jeu qui va s'appeler Forêt Vivante, qui devrait sortir à l'automne pour un peu partir à la découverte de l'indice de biodiversité potentielle. Donc comment gérer une forêt pour qu'elle soit productive et qu'elle reste accueillante pour la biodiversité.
Par rapport au parc national, ça va être quoi les enjeux du parc envers la forêt ? Vous allez avoir un moyen d'action sur quoi ?
Alors au parc on fait différentes choses. Déjà quand on est dans le cœur de parc, on formule des avis sur les documents de gestion forestière. Donc on autorise les travaux, les coupes en forêt aussi, en lien avec la réglementation du parc. Et on apporte aussi des conseils aux propriétaires et gestionnaires en amont pour les informer sur les enjeux écologiques et patrimoniaux dans leur forêt. Et puis leur fournir quelques recommandations pour savoir comment gérer de la forêt tout en maintenant un certain niveau de biodiversité. En fait, c'est ce qu'on appelle la gestion multifonctionnelle, la forêt multifonctionnelle. Donc une forêt qui puisse produire du bois, fonction économique, qui puisse être accueillante pour le public, agréable d'un point de vue paysager, donc c'est la fonction sociale, et la fonction environnementale, donc une forêt qui soit voilà, riche en biodiversité, en essence, etc.
Une question pour les gens qui aiment les chiffres, tu sais à quelle quantité, quel pourcentage le parc est recouvert de forêt ?
On est à peu près à 70%. Que ce soit à l'échelle du cœur ou de l'ensemble du territoire, on est à 70% de forêt. Sachant que, petite anecdote intéressante, il y a un siècle et demi, en 1850, un peu plus, on était à 15%. Donc c'est une forêt qui est récente, qui est jeune, pour une forêt. Hein.
Voilà. Diversifiée ?
Assez diversifiée. C'est l'avantage des Cévennes, c'est que la diversité de roches, de reliefs, d'altitude, de climat, s'accompagne d'une diversité de forêts aussi. Voilà. Ce qui est un autre aspect intéressant, c'est que sur ces 70% de forêts, alors dans le cœur de parc, on est sur du 50% public, 50% privé. Mais si on prend tout le territoire du parc, y compris l'aire d'adhésion, on est sur du 80% privé, 20% public. Donc on a aussi une diversité de gestion liée au statut de la forêt, quoi, et aux propriétaires.
Autant de forêts, ça fait autant plus de risques incendie. Comment vous allez gérer, vous, le DFCI au niveau du parc ?
Alors, c'est pas le parc qui gère le DFCI.
Vous avez des moyens d'action, de prévention ?
On est associé on est associé à l'élaboration des documents cadres. Donc en ce moment, il y a les plans départementaux de défense de forêt contre les incendies. Il y a des plans de massifs qui sont en cours de révision, qui vont être révisés. Donc là-dessus, on est un peu dans la boucle. Nous, on formule pareil un peu des recommandations sur les enjeux, comment faire de la DFCI en préservant les enjeux environnementaux. On participe après à la surveillance des massifs. Hein. Au final, c'est peut-être là qu'est notre plus grand rôle sur cette thématique-là, c'est de participer aux côtés de l'ONF, des pompiers, des différents acteurs, à être sur site, à surveiller les massifs. Bon, c'est sûr que c'est un enjeu qui arrive fortement. Pour l'instant, on est encore assez épargné. Donc voilà, nous, on vise aussi ce qu'on espère, parce que la vision qu'on promeut, c'est que la gestion qui est favorable à la biodiversité soit aussi, en fait, favorable à des forêts plus résistantes aux incendies de forêt.
Et comment on fait ça ?
Alors, vaste question, mais c'est vrai qu'on typiquement des forêts mélangées, on sait que c'est moins vulnérable que des forêts monospécifiques. D'avoir des forêts un peu matures aussi, des gros arbres, sont des parcelles où il y a des mélanges de taille, de diamètre, de dimension de bois, ça va être des parcelles qui seront moins vulnérables que des parcelles en régénération avec des peuplements très denses, très serrés. Voilà. C'est de manière générale, hein, moi j'ai tendance à dire ça, que ce soit pour la DFCI ou pour ou plus généralement dans le cadre du changement climatique, c'est que la biodiversité, elle est un peu notre meilleur allié sur ces aspects-là.
Merci beaucoup.
De rien.
Alors, je suis Léa Barré, je suis pépiniériste, forestière et bocagère, sur le Cosmégen en Lozère.
Être pépiniériste, en quoi ça consiste ? C'est quoi le but d'une pépinière ?
Alors, une pépinière sert à produire des jeunes plants, ou des plus ou moins jeunes d'ailleurs, plants, pour effectuer des plantations après sur site. Je pars de la graine et je fais pousser des arbres et des arbustes.
Ça va être quel genre d'essence d'arbres qui vont grandir dans ta pépinière ?
Alors, j'ai à la fois des résineux et des feuillus. Là, sur le stand, j'ai pris quelques essences végétales locales parce que je suis labellisée par la marque végétale locale. Donc des essences plutôt bocagères, la lisier, blanc du cormier, du merisier. Voilà, puis j'ai quelques essences forestières qui sont plutôt des plants MFR du coup, matériel forestier de reproduction, érable sycomore, j'ai du cèdre, j'ai du sapin de Nordman. Voilà, et puis après j'ai d'autres choses à la pépinière, pas hésiter à me demander la liste.
Et là du coup ces plants que tu fais pousser, ils vont être pour qui ? Pour quelle forêt ? Qui va venir acheter ces plants ?
Alors, je m'adresse surtout aux professionnels, que ce soit des forestiers, des gestionnaires forestiers, des propriétaires forestiers ou des entrepreneurs de travaux forestiers. Pour les haies, ce sera plutôt soit des associations qui accompagnent à planter des haies, donc le copage, arbres et paysages, voilà. Et après, pour des particuliers, il faudrait que ce soit plutôt des commandes importantes d'une centaine de plans.
Et là, du coup, aujourd'hui, ta vision du métier pépiniériste, est-ce que c'est un métier d'avenir ?
Je suis sûre que c'est un métier d'avenir. Il en faudrait plus. D'ailleurs, moi, je me suis lancée parce qu'il n'y en avait pas dans le département et dans les départements limitrophes. Je suis au sein d'une forêt pour me fournir en plants, c'était compliqué. Donc, je me suis lancée là où je suis. Et oui, je pense que c'est un métier d'avenir.
Quelles sont les plus grandes difficultés quand tu es pépiniériste ?
C'est assez physique comme métier, c'est un métier d'agricultrice. Donc il y a ça, pour l'instant je le vis bien, mais c'est vrai que c'est assez physique. Et mon enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de me faire connaître et de trouver des débouchés en dehors du bouche à oreille. Voilà, mais je suis sûre que ça viendra, c'est ma deuxième année de production et c'est déjà prometteur.
Il y a une taille ou un âge à partir duquel tu ne peux plus vendre un arbre ?
Alors en forêt, on va pas... Enfin, pour les essences résineuses, ça peut aller jusqu'à 3-4 ans. Pour les feuillus, on les vend la première année, voire la deuxième année. Mais on vend pas au-delà, on préfère planter des jeunes plants qui s'adaptent plus facilement à leur milieu quand ils sont jeunes.
Merci beaucoup.
De rien.
Bonjour, je suis Juan Pablo Rodriguez et je travaille en tant que chargé de mission Natura 2000 et au syndicat de Haute-Vallée-Cévenol. Donc on est un syndicat intercommunal et qui travaille sur plusieurs thématiques liées surtout sur les thématiques du développement durable. Et donc transition énergétique, aussi sur le développement agricole et le développement aussi de l'activité autour de la forêt et la défense de la forêt contre les incendies. On travaille aussi côté préservation de la nature avec l'animation de deux sites Natura 2000 en Cévennes, et celui de la vallée du Galaison et celui de la Haute-Seize. Et le syndicat, il anime aussi un centre d'interprétation des vallées Cévenoles à Sandras, et qui s'appelle Biosfera.
C'est-à-dire, c'est quoi un centre d'interprétation ?
En fait, c'est un lieu dans lequel on fait des animations, on organise des conférences, des expositions. Il y a un espace muséologique sur le patrimoine historique et patrimoine naturel des vallées Cévenoles. Et on organise aussi des animations extérieures, sorties sur le terrain. Voilà, il y a un programme d'animation à l'année qui se structure en trimestre et qu'on sort donc tous les trimestres là, et vient de paraître le programme pour l'été, pour les mois de juillet et août et septembre.
Et vous allez proposer quoi comme animation à peu près ?
Bah là en fait on a des animations, on a des sorties sur la thématique des libellules en rivière et sur le castor, et après on a des on a des conférences, on a aussi des visites de jardin, on a une visite de jardin sur la thématique de l'eau et de l'utilisation de la ressource de l'eau. Voilà des choses assez on a beaucoup de projets. Aujourd'hui on est ici dans la fête de la forêt parce que surtout on s'utilise, comme je disais, on s'occupe, comme je disais tout à l'heure, d'animer donc la DFCI dans une quinzaine, si je ne m'abuse, et une quinzaine de communes, et qui adhère au syndicat pour gérer cette thématique. Et ça, on lance.
Ça consiste en quoi d'animer la DFCI ?
Ah bah précisément ma collègue Gloria, elle pourrait mieux vous en parler. Mais c'est mettre en place un plan de lutte contre les incendies de forêt et du coup s'occuper du financement et de l'entretien urbains et la mise aux normes des pistes de DFCI, la création de pistes, etc. Et concernant la forêt aussi, on lance en partenariat avec le parc le parc national des Cévennes un projet de forêt en libre évolution et sur le territoire du syndicat et parce que on se rend compte qu'on ne connaît pas très bien les vieilles forêts, les endroits de vieilles forêts qui existent sur le territoire avec des enjeux de biodiversité particuliers et donc on fait un appel à, on lance un avis de recherche pour que les gens ils nous contactent, ils nous le disent pour faire un inventaire de ces forêts éventuellement remarquables.
Vous allez donc travailler aussi bien sur des forêts domaniales publiques que sur qu'avec des propriétaires privés de forêts.
Ça sera surtout sur la forêt privée. Donc on fait ça, voilà, un appel à contribution et ensuite éventuellement une sensibilisation avec les propriétaires et les renseigner aussi sur les outils qui existent, qui sont à leur disposition pour préserver et prendre soin de leur forêt.
Une idée du nombre de forêts que vous allez couvrir avec le syndicat?
Après, on ne s'est pas fixé d'objectif particulier. Il faudrait, nous, notre objectif, ça serait déjà d'arriver à 3%, si on arrivait à 3% de la forêt privée, ça serait déjà un bel objectif, sachant qu'aujourd'hui, de ces forêts connues, il y en a bien moins que ça.
Merci beaucoup.
Bah, je vous en prie.
Et merci à toi, Léo. Et deux choses pour finir cette matinale. La marche des fiertés, c'est ce samedi, Square Émilie Joly à Mende. Un plateau radio 48 FM et Radio Partez à partir de 13h. Et la marche commence à 17h. Et toute l'après-midi, il y aura un village associatif. De plus, le festival Enimi BD, c'est tout ce week-end. C'est à Saint-Enimi. Et on se retrouve lundi avec les interviews des lauréats du festival dans les différentes catégories. Lundi matin. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve donc lundi. On se quitte avec Johnny Cash et Joe Strummer qui ont repris Redemption Song. Restez bien sur Barthes, on n'y est pas trop mal. Excellente journée, ciao.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships.
minutes after they took I
from the bottomless pit.
How long shall they kill our prophets
while we stand aside and look?
Yes, some say it's just a part of it.
We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom?
'Cause all I ever had,
redemption songs. All I ever had,
redemption songs. Songs of freedom. Songs of freedom.